Apple est dans la panade avec son nouveau Siri. Annoncé en grande pompe lors de la dernière WWDC, la nouvelle version de l'assistant n'arrivera finalement pas avant 2026 au plus tôt. Ce retard fait du bruit car Apple a l'habitude de tenir ses promesses et avait mis le paquet sur Apple Intelligence dans sa communication autour de l'iPhone 16 Pro. Ce n'est pas la première fois qu'Apple se plante et fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. On se souvient par exemple de l'antenna Gates de l'iPhone 4, de l'iPhone 6 pliable avant l'heure ou encore du flop du Mac Pro 2013. La marque a une manière bien à elle de gérer les crises et d'esquiver les polémiques pour ne pas écorner son image. Comment se sort-elle de ses mauvais pas? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Florian, rédacteur en chef de Mac Génération, qui a vu Apple survivre à plus d'une crise. Salut Florian.
Bonjour.
Et je suis également avec Christophe, le big boss de MacG, qui suit l'actualité d'Apple depuis plus de 25 ans maintenant. Salut Christophe.
Bonjour.
Florian, on peut dire qu'Apple s'est bien mise dans le pétrin avec son nouveau Siri. Elle a annoncé une nouvelle fonction qui n'existe pas et qu'elle n'arrive pas à mettre sur pied. On pourrait se demander pourquoi cette affaire fait-elle réagir tant que ça. Parce qu'après tout, on pourrait se dire qu'ils se sont un peu emballés, qu'ils ont annoncé une nouveauté qu'ils ont du mal à finaliser, mais bon, que ça va arriver plus tard. On pourrait même se dire qu'on n'en a pas fait tout un foin quand ils ont annulé AirPower, par exemple.
L'AirPower, c'est un bon exemple jusqu'à un certain point. Pour rappeler, c'était avec l'iPhone 10, donc ça commence un petit peu à dater. Ils avaient annoncé, donc ils annonçaient les iPhones, et puis Phil Schiller dit « Tiens, on va lancer l'AirPower ». Et il montre une photo, donc il n'y avait pas de prototype, il n'a pas fait de démonstration, il n'a pas manipulé quelque chose, mais une photo qui montrait un tapis de charge avec l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch, qui était assez nouveau parce que l'Apple Watch, généralement, avait besoin d'un petit galet spécial. Là, elle était posée à plat sur un tapis. Et surtout, ces trois objets pouvaient être posés un peu n'importe comment sur le tapis, il n'y avait pas des emplacements dédiés, et tout ça chargé. Voilà, c'était très simple. Donc il a juste dit ça, voilà, on va sortir ça, l'AirPower, ça fait ça, et puis rendez-vous bientôt. Point. Et puis le produit n'est jamais arrivé. Et puis après, Apple a dit on n'arrive pas à le faire. Mais c'était un accessoire. C'est là que la comparaison s'arrête avec Siri, où de la même manière, il y a eu une présentation d'une fonction qui n'arrive pas. C'est que là, l'AirPower, c'est un accessoire. C'est pas indispensable à l'utilisation des trois produits pour lesquels il était prévu. Et au pire, on pouvait toujours se dire, si Apple le fait pas, il y a bien quelqu'un qui le fera, un accessoiriste qui le fera. Ce qui s'est produit, il y en a un ou deux. Hein, j'en ai en tête avec Nomad, je crois qu'il y en avait un autre. Mais ça a pas fait école. Donc, visiblement, les problèmes qu'a rencontré Apple, les autres ont peut-être réussi à s'en sortir un peu mieux, mais ça doit être suffisamment compliqué pour que l'idée en soi soit pas bonne. Donc voilà, ça le truc qui a été rangé. Avec Siri, ce qui est plus embêtant, c'est que... Alors c'est plus embêtant à plein de niveaux en fait. Donc la conférence des développeurs l'année dernière, Craig Federighi et puis une des responsables produits font une des démonstrations. Donc ils disent voilà, on aura ces fonctions avec Siri. Siri pourra faire ceci, pourra faire cela. Donc ils le montrent à l'écran et le Siri se déclenche sur mon téléphone. Ben là voilà, quand il faut pas. Et donc ils font un chemin de présentation comme on fait tout le temps avec la présentation des futures fonctions de l'iOS. Donc on se dit voilà, il y a eu une réflexion sur une nouvelle fonction. On sait que ce sont des prototypes, que c'est en développement, mais c'est sur les rails, quoi. Ils savent où ils vont. Et puis, on en arrive à la situation là où rien n'est arrivé avec les versions bêta et Apple dit, finalement, on va avoir du mal à le sortir tout de suite et on le sortira l'année prochaine. L'année prochaine, c'est 12 mois, donc ça peut être en janvier, mais on vous sent très bien que ça va être un peu plus tard. Donc il y a un côté, aïe, on s'est mis un peu dans le pétrin, on s'est un peu tiré une balle en présentant ça tout de suite. Ce qui est embêtant, alors c'est embêtant à plusieurs niveaux, parce que Apple a cette idée, cette image d'innovateur, on crée des trucs qui fonctionnent, et surtout, ce que l'on montre, on sait qu'on va le sortir, c'est-à-dire il y a plein de boîtes technologiques dans plein de domaines qui font des vidéos de un peu d'anticipation, de SF en disant l'avenir, le futur, ceci, les produits feront ceci ou cela, mais c'est clairement c'est histoire, voilà, on fait rêver. Apple veut aussi faire rêver, mais le rêve doit devenir réalité à brève ou à courte ou moyenne échéance. Il y a des périodes de bêta publique, mais ce qu'on montre, on va le sortir. Voilà, c'est acté. Là, c'est pas le cas. Ça me rappelle un peu un précédent. On va remonter en 96. C'était juste avant l'arrivée de Steve Jobs, où Apple devait refaire tout son système parce qu'il commençait un petit peu à vieillir. Donc il y avait macOS, ça devait s'appeler macOS Suite. Il avait le surnom Copeland. Et donc, il devait avoir du multitâche, des choses comme ça. Et ils avaient envoyé des CD, là, carrément, on recevait un CD avec le logo macOS Suite et des démonstrations de l'OS. Mais c'était des animations où on voyait un peu tout ça fonctionner. Mais c'était fait avec Director, qui était à l'époque le logiciel avec lequel on créait des animations pour les CD interactifs. Donc, c'était assumé que c'était juste des démos fabriquées, qu'il n'y avait pas de code ou autre. Mais ils étaient allés jusque-là en disant, voilà, on vous montre ce qu'on est en train de faire. Et le truc s'est crashé. Apple a laissé tomber, ils ont acheté Next, et puis la suite est connue. Donc il y a un peu ça rappelle un peu ça, c'est on montre des trucs, on fabrique quelque chose pour montrer la réalité, mais la réalité, en fait, derrière, c'est du vent, quoi. C'est un décor en carton-pâte. Et ça, on n'a pas vraiment l'habitude avec Apple. Il y a toujours un fond de vérité, quand même, dans tout ce qu'ils montrent. Et c'est aussi embêtant dans le sens où ça touche Siri, qui est un peu le canard boiteux chez Apple. C'est la techno qui était novatrice à son lancement, mais qui est accusée de tous les maux et de toutes les incompétences. Et là, on se disait, ah tiens, à la faveur de toutes ces intelligences artificielles, on va faire une sorte de reset de Siri. Il va devenir enfin utile, compétent, hyper polyvalent. Il pourra aller chercher des informations dans le téléphone, lire ce qu'il y a à l'écran pour l'interpréter et faire quelque chose avec. Et on se rend compte que c'est toujours pas ça et qu'ils ont toujours du mal à faire évoluer Siri. Et l'autre encore problème avec ça, c'est que sur toutes les fonctions d'Apple, Apple Intelligence, c'est une suite de fonctions et une suite d'outils, il y a diverses choses. Et Siri, à mon sens, c'est la seule qui a une vraie valeur ajoutée par rapport au reste. C'est-à-dire que les aides à la rédaction d'un mail pour reformuler un truc, tout le monde sait le faire, tout le monde le fait, Google, Microsoft, ils le font tous. Faire des genmojis, c'est-à-dire ces combinaisons d'emojis, ils le font pas forcément, mais bon, ça, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est sympa, mais on peut s'en passer. Image Playground, c'est sympa, mais c'est pareil, a priori, ça va pas être l'application un peu dont tout le monde va se servir tout le temps. Là, avec Siri, on avait un truc qui sortait du lot et avec lequel Apple pouvait dire, nous on l'a, les autres ne l'ont pas. Et c'est ce truc-là, le seul truc où ils peuvent dire non, mais nous, l'intelligence artificielle, on fait des trucs avec que les autres ne font pas. Et pour l'instant, c'est un peu dans le fossé. J'arrête là, j'ai parlé beaucoup.
Non, mais c'est pour te compléter, c'est un peu le porte-étendard d'Apple Intelligence, comme tu dis. Ouais. Et par rapport à tout ce que tu disais, il y a quand même quelque chose de nouveau, dans un flop made in Apple, c'est que c'est quand même peut-être la première fois qu'on a eu quand même des publicités pour oui. l'iPhone 16 avec ce Siri-là. C'est qu'on a eu tout un axe de communication. C'est pas comme si c'était le petit truc à côté du fin fond. Regardez, on peut faire ci, on peut faire ça. Non, c'était... Et là, comme disait Florian, par rapport à la promesse qui allait arriver, là, le consommateur le voyait sur sa télé pendant un spot publicitaire. Bientôt, je pourrai avoir des discussions formidables avec Siri. Ça va être le grand jour et tout. Et c'est là où c'est d'autant plus gênant pour Apple. Donc, elle se retrouve donc face à une impasse. Et pour ainsi dire, elle ne communique pas. Ou elle envoie de temps en temps, elle envoie un vague communiqué le vendredi soir, histoire de dire. Et puis en même temps, on se retrouve bizarrement, tiens, il y a Gurman qui fait fuiter des trucs deux ou trois jours plus tard. Il y a tout un lot de rumeurs qui arrivent dans la semaine qui suit. Voilà, histoire de cacher le tapis sous la poussière, on a l'impression. Alors, je sais pas, on va pas rentrer dans des thèses du complot à savoir si tout était organisé ou pas. C'est pas ça le propos. Mais c'est pas, il aurait peut-être fallu tout simplement dire. Oui, désolé, Siri, c'est compliqué, on a un petit peu déconné, et puis voilà. Quoi.
Et c'est vrai qu'ils le disent à travers leur communiqué, mais c'est trois lignes. Et effectivement, par rapport à ce qui a été montré, où il y a quand même c'était une bonne partie, une grosse partie des démonstrations des futurs iOS 18, mais ça n'a pas été une partie qui a été faite en deux secondes. Craig Federighi en parle, une des responsables de développement en parle aussi, donc ils ont consacré du temps. Comme tu dis, ils ont dépensé de l'argent pour des publicités, ils ont recruté une actrice un peu connue, il y a des efforts, c'est passé à la télé, c'était le message si vous achetez cet iPhone pour avoir cette fonction là, donc il y a un côté c'est une valeur ajoutée. Et quand ça marche pas et que le truc est un peu est vraiment en retard, c'est juste comme tu dis, trois lignes dans un communiqué de presse envoyé le vendredi soir à un média et puis...
C'est ça, parce que c'est ça, il faut préciser, c'est même pas un communiqué de presse dans le sens où... Enfin,
oui,
j'ai pas vérifié,
c'est pas un communiqué,
tu le trouves pas sur le site Apple
News. Non, c'est juste une déclaration, comme il faut une déclaration auprès d'un média et puis qui a peut-être même rien demandé, mais c'est Apple qui envoie, qui dit, qui contacte un média un peu qui a de la résonance et qui lui dit voilà ce qu'on a envie de dire ce soir à 21h vendredi, voilà, et puis c'est tout, on n'en dira pas plus. Et puis oui, c'est pas un communiqué. Ce qui est un peu dommage dans le sens où on imagine bien qu'ils vont pas entrer dans les détails de tout ce qui marche pas, c'est certainement très compliqué. Et puis, mais il y aurait peut-être pu y avoir un moyen, je dis ça, mais c'est peut-être compliqué, hein, de dire voilà, on veut faire ci, et nous, notre vrai, ce qu'on veut vraiment faire, c'est la sécurité, que le truc soit, qu'il n'y ait pas de problème, pas de ceci, pas de cela. Au moins se dire voilà pourquoi ça nous prend plus de temps, c'est-à-dire trouver des points positifs en disant ça nous prend plus de temps, sous-entendu parce qu'on veut faire quelque chose de mieux que les autres ne feront pas, et que les autres ils se dépêchent. Mais peut-être que c'est très compliqué, peut-être, après c'est toutes les théories possibles et imaginables, mais c'est vrai que ça fait un peu on vous dit ça rapidement et puis voilà, on passe à autre chose.
Il y a une dernière chose, c'est que bon, donc tout ça, on parle d'intelligence artificielle, voilà, c'est effectivement, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, le sujet à la mode dans la high-tech. C'est ce qui, c'est un impact important sur les actions. Et lorsqu'Apple a présenté Apple Intelligence lors de la WWDC, le cours d'action d'Apple a connu des mois plutôt favorables, alors que lorsqu'on avait une lecture des résultats financiers qu'on suivit, c'était plutôt des trimestres, on va dire, très moyens. Donc, quelque part, la bourse achetait la promesse d'Apple Intelligence d'Apple. Et évidemment, si elle commence à parler en disant « bon, bah finalement, Apple Intelligence, c'est plus compliqué que prévu », bah c'est un aveu d'échec, et là, je pense que, quelque part, Tim Cook a choisi. Est-ce qu'on joue, entre guillemets, plus ou moins, effectivement, une sorte de transparence avec nos clients, ce qu'on aurait tendance à faire, en disant « voilà, on s'excuse, on fait même peut-être un petit geste, ou je ne sais quoi », ou on se tait en espérant que ça fasse le moins de bruit possible pour que c'est le moins d'impact négatif sur le cours d'action.
C'est toujours un petit peu à l'aune de la bourse, effectivement. C'est une boîte qui est tellement grosse que la moindre chose peut prendre des proportions énormes. Mais ça me faisait, là, en t'écoutant, ça me faisait penser à Sonos, qui, quand ils sont bien ramassés avec leur app, donc ça a été, il y a eu un problème, des polémiques, etc. Et au bout d'un moment, quand ils ont commencé, il y a un moment dans leur communication où ils ont dit bon, on a merdé. Ok, voilà, on a merdé, on est désolé. C'était pas juste trois lignes comme ça envoyées à Reuters ou un autre. Et puis après, c'est bon. On va remettre à plat les trucs. On va commencer par faire ci, par faire ça, par faire ça. Telle fonction, tel machin, tel truc. Alors, c'est certainement infiniment plus simple pour leur application que pour Siri, où il y a des choses qui doivent être créées vraiment de zéro. Mais il y avait, disons que le client Sonos se disait, ok, je vois à peu près où ils veulent aller, ou à partir de quand, moi, mon problème va être réglé. Et puis ils ont fait ça successivement. Cette semaine, on a corrigé ci, puis on travaille là-dessus. Il y avait une sorte de plan. C'est peut-être pas faisable pour Siri, mais disons, voilà, là, on croise les doigts en se disant qu'ils présenteront certainement quelque chose à la prochaine WWDC. Enfin, de toute façon, s'ils présentent rien, c'est encore plus grave. Et s'ils présentent quelque chose, là, il faudra qu'ils mettent quelque chose entre les mains des développeurs, que les développeurs repartent avec, même si c'est de la bêta, mais qu'ils repartent avec quelque chose. Quitte même à ce qu'ils le sortent, qu'ils sortent quelque chose en avril avant, histoire de préparer un peu les développeurs et que les développeurs arrivent à la WWDC avec des applications en voie d'optimisation. Parce que ça, il y a un volet assez important là-dessus aussi.
Mais en lisant Gurman et par rapport aux différentes rumeurs ou informations qui ont été publiées dans la presse dans la foulée, justement, on a l'impression que le plan d'Apple n'a pas l'air d'être très clair. Enfin,
oui.
on nomme à nouveau, enfin, un petit peu de ménage dans la division, mais oui, ça n'a pas l'air de respirer. Voilà, ils n'ont pas l'air d'être. Certes, ils savent pas vraiment là où ils vont et comment ils y vont, quoi.
Ça me rappelait un autre truc, c'était quand il y avait le fameux problème avec MobileMe, où Apple avait lancé une suite de fonctions en ligne, de services en ligne, donc ce qui est devenu iCloud plus tard, et ça marchait pas. Ils avaient tout refait, ça marchait pas, il y avait des lenteurs, ça synchronisait pas, il y avait un vrai, vrai, vrai problème, un gros fiasco. Et j'avais discuté avec quelqu'un à l'époque qui était en très, très proche de ce truc-là. Et tel que je le comprenais, c'était, en fait, il y avait une sorte de... Les difficultés, les problèmes que ça allait poser techniquement, c'est-à-dire avoir des masses de gens qui veulent synchroniser, faire ceci, faire cela, ils savaient que ça pouvait poser problème, que les technologies utilisées n'étaient peut-être pas assez costauds, mais cette information-là était peut-être pas répercutée suffisamment clairement jusqu'aux hautes strates d'Apple, parce qu'on imagine que Tim Cook, il va pas tous les matins analyser des lignes de code et se tenir au courant de comment fonctionne l'IA. Il confie ça à des gens qui savent, et puis après, les gens lui disent si, si, c'est bon, non, non, ça va pas, ou si, on est en train de trouver une solution. Donc, il se base un peu sur ses retours. Et apparemment, à l'époque de Bobby Demy, ce qui remontait était peut-être pas très conforme à ce qui se passait vraiment à l'état du développement. Et quand le truc a été lancé, bah, patatras, et Jobs, Schiller et les autres ont découvert le truc qui marchait pas, quoi. Mais ils n'avaient pas cette préhension de la réalité des problèmes. Et peut-être que c'est ça, qu'il y a aussi ça pour Siri, c'est qu'ils ont vendu un truc à la direction d'Apple en disant « on va y arriver, ça prend du temps, mais on va y arriver ». Et qu'on avance, on avance. Les gens du marketing, pendant ce temps, ils disent bah, nous, on a un nouveau téléphone à vendre. Vous êtes sûr que vous pouvez faire ces fonctions? Oui, 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 ça devrait aller. Nous, on y va à fond parce que faire une publicité avec des animations, c'est pas compliqué. Eux, ils peuvent y aller à fond. Et voilà, qu'il y a une sorte de désynchronisation entre les équipes et peut-être une mauvaise communication.
Christophe, comment est-ce qu'Apple gère ce type de crise habituellement? Là, on a eu un communiqué donc, qui a été envoyé à un seul média, mais on a l'impression que souvent, la stratégie, c'est plutôt de faire comme si de rien n'était, de serrer les dents et puis de corriger le tir en douce.
Oui, c'est ça. Alors, tout d'abord, je tiens à faire un petit disclaimer. Hein. Quand Apple a présenté Siri en 2011, moi, j'étais assez impressionné par cette technologie. Hein. Mmh. Certes, elle n'était pas parfaite, mais il faut se rappeler qu'on était aussi en 2011. Et il faut se rappeler que ce qu'étaient nos smartphones à l'époque, on en était à l'iPhone 4S. Alors, c'est un très chouette téléphone, mais bon, faut comparer un iPhone 4S avec les tout derniers iPhone 16. Mmh. Et c'est là, en 15 ans, l'iPhone a fait des progrès considérables. Et Siri, on a l'impression d'un surplace. Alors certes, ils ont revu 1000 fois l'interface, ils ont amélioré les voix, ils ont ouvert un petit peu la techno... Elle sait faire des choses en local également, mais voilà. Quand Siri est sorti en 2011, on avait vraiment l'impression qu'Apple était en avance sur la concurrence et qu'elle allait comme ça prendre un nouveau virage et qu'elle était un petit peu en tête dans ce domaine. Enfin, on entrevoyait l'intelligence artificielle se démocratiser tout ça. Alors, comme je disais, il avait des défauts, mais on lui pardonnait parce que c'était nouveau. Et là, 2025, les trucs de base, c'est compliqué. La fonction reconnaissance vocale, c'est toujours compliqué. Alors, vous dictez un texte au niveau de l'orthographe, vous voyez, il y a quand même de grosses fautes. Alors, si je pars de ça, c'est parce que comprendre ce que dit l'utilisateur, ça reste quand même la première étape. Et voilà, et c'est ça le souci, c'est que on a l'impression que Siri a des problèmes, on va dire, de base depuis le début, et qu'Apple est incapable de faire en grosso modo un Siri 2.0. Donc voilà, comme je le disais, Siri faisait la course en tête au début des années 2010, puis progressivement s'est fait rattraper par les assistants de Google et d'Amazon. Et puis là, lorsque vous faites joujou avec ChatGPT et consorts, vous dites ah ouais, il y a quand même un petit problème. Alors, pour répondre déjà à ta question, en fait, il faut se rendre compte que la communication d'Apple a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et j'ai l'impression que quelque part, elle est un petit peu victime de sa propre communication. Je vais donner... je trouve que depuis quelques années, enfin, et ça, Florian le confirmera à la lecture des nombreuses interviews auxquelles on a le droit dans la presse américaine et dans la presse internationale, Apple parle de plus en plus pour ne rien dire. Je vais vous donner un exemple, un moment de tranche de vie de communiqué de presse à la rédaction. Je sais pas, il y a, on va dire, dans les années 2005, 2010, 2015, lorsqu'on recevait un communiqué de presse d'Apple, c'était un événement. Enfin, tout, la rédaction de ma génération s'arrêtait. On regardait qu'est-ce qu'il y avait dans ce communiqué de presse, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Là, lorsqu'Apple publie un communiqué de presse, c'est à peine si on regarde ce qu'il y a dedans, tellement qu'il y a vraiment à boire et à manger. Et en fait, voilà, Apple fait tellement de bruit pour rien qu'elle oublie d'en faire quand c'est important. Il y a un exemple qui est tout bête, c'est elle fait de moins en moins de special events, alors qu'il y a des fois, lorsque tu fais par exemple des récaps, des annonces dans Kernel Panic ou on le fait dans Sortie de Veille, quand on additionne tout ce qui aurait pu être mis à la queue le long, on se dit Oh, il y aurait quand même manière de, il y aurait quand même matière à faire un keynote sympa. Et alors là, c'est par rapport à ce qu'on disait avec Florian, d'une certaine manière, elle ne s'adresse plus jamais directement à ses clients. Tim Cook, c'est vraiment un exemple un peu tiré par les cheveux, mais il parle plus à des vrais gens pendant un keynote, il parle à une caméra. Et voilà, et c'est comme là pour Siri, pour reprendre l'exemple, ils n'ont pas publié un communiqué de presse sur le site où on s'adresse à ses clients, aux possesseurs d'iPhone 16 ou 16 Pro, mais on envoie de ligne à un journal américain. Donc, si ça se trouve, le client final, il n'a jamais été, il n'a jamais appris la nouvelle. Enfin, s'il baigne pas dans s'il consulte pas l'actualité tous les jours. Et ben voilà, c'est peut-être le problème d'Apple dans cette affaire. Voilà, par rapport à ce que je disais, sous l'ère Jobs, la parole d'Apple était rare. Alors, Jobs, il avait beau avoir son champ de distorsion de la réalité, il savait aussi dire aux clients quand quelque chose n'allait pas. Alors, je prends un exemple qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais voilà, c'est que pour la sortie de Léopard, en fait, Apple développait en même temps le système d'exploitation de l'iPhone, donc il peaufinait le lancement, et en même temps, il finalisait le développement de macOS. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas arriver à faire les deux en même temps, et donc là, Jobs avait fait une lettre pour s'excuser, et voilà, et c'était passé comme une lettre à la poste. Tout le monde comprenait en disant, oui, non, non, mais peut-être que l'iPhone, c'est plus important que la prochaine version de macOS. Mais pourtant, à l'époque, sortir un OS en temps et en heure, c'était quand même quelque chose d'important. Surtout qu'à un moment, on était à un moment où Windows galérait énormément à tenir les délais lorsqu'il sortait une nouvelle version. Et puis, mine de rien, à l'époque, macOS 10, lorsqu'il y avait une mise à jour, c'était vendu 130 $. Donc, c'était quand même pas rien, et Apple n'était pas encore la société qu'elle est aujourd'hui. Mais tout ça par rapport à ces problèmes de communication, il faut quand même reconnaître qu'Apple est entré dans une nouvelle dimension avec l'iPhone. Elle est quand même beaucoup plus scrutée, et les polémiques sont quand même incroyablement plus nombreuses. Et des fois, il y a des polémiques, enfin, c'est des tempêtes dans un verre d'eau. En effet, je me souviens d'un article il y a quelques années où on expliquait qu'à chaque fois que Apple lance un nouveau produit, un nouvel iPhone par exemple, Apple a une sorte de war room où ils analysent tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour être le plus réactif en cas de souci. Voilà. Alors, après, Apple a quand même le chic pour faire quelque chose sans trop reconnaître le problème. Voilà, l'antenne à guêtre, c'est le parfait exemple, hein. Donc, Steve Jobs n'avait jamais trop voulu avouer que l'iPhone.
C'était un peu piqué au. Il
L'iPhone
y avait
4.
une part, on sentait qu'il y avait une sorte d'orgueil un peu. Il était piqué au
Totalement.
vif. C'était tombé en plein été pendant les vacances de tout le monde. Ils avaient lancé leur téléphone. Là, tu sentais. Et c'était le téléphone en plus qui avait été perdu. Enfin, dans le prototype avait été perdu dans un bar. Donc le design avait été révélé par Gizmodo avant sa présentation. Manque de bol, c'était vraiment le tout nouveau design. Par rapport aux trois précédents, un design qui était en plus super bien. Donc c'était vraiment le truc maudit, quoi. On s'est fait flinguer pour le design est arrivé est sorti avant. Et là, quand on nous dit que, enfin, on se rend compte qu'en le tenant pas correctement, il marche moins bien. Donc ouais, je pense qu'il était un peu énervé, quoi, le père Jobs.
Et je me souviens qu'on avait fait des comparaisons parce que c'est plus ou moins à ce moment-là qu'il y a eu, entre guillemets, qu'Apple a commencé à faire ses fameuses lettres d'excuses pour dire il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ou ce genre de choses. Et c'était très marrant, on avait comparé les lettres d'excuses sous Jobs et les lettres d'excuses sous Tim Cook. Et donc, les lettres de Jobs, peut-être qu'à la dernière phrase, il y avait un semblant de remords, d'excuses. Enfin, c'était vraiment le truc un petit peu. Tandis que avec Tim Cook, c'était plutôt très carré. Hein, dès les deux premières phrases, on disait, bon, voilà, on s'excuse, on est désolé, ce genre de choses.
Oui, puis alors je sais pas si Félix voulait en reparler plus loin de l'antenne à guêtre, mais en plus Jobs, il a son côté sanguin, et avec l'antenne à guêtre, on sentait qu'il était très fier de ce téléphone, et c'était déjà fait un peu griller la surprise. Et là, donc dans une de ses fonctions premières qui pouvait être déficiente, qui était téléphoner, ça marche pas. Et c'était donc les concurrents qui depuis 3 ans se prenaient des ventes d'iPhone dans la figure s'en ont profité. J'ai retrouvé des pubs de Motorola avec son Droid et de Nokia qui chacun à sa manière avait fait un billet de blog pour l'un, une pub pour l'autre, où ils se foutaient un peu d'Apple, quoi. Ça faisait 3 ans qu'ils voyaient l'iPhone qui se vendait, et là, paf, une petite faille, donc ils sont complètement rentrés dedans. Jobs a dû bien l'énerver, et c'était le côté, c'est pas le téléphone qui a un problème, c'est vous qui le tenez mal. Et puis quand ils ont fait leur conférence avec Tim Cook, c'était, mais ils avaient fait des petites vidéos qui sont restées un bon moment sur le site web d'Apple, où on tenait des petites vidéos, on voyait une main qui tenait un BlackBerry, qui tenait un Nokia, et donc on voyait les téléphones concurrents avec toutes leurs barres de cellulaire, puis on voyait la main qui serrait le téléphone, puis pouf, les barres cellulaires baissaient. La même chose qui se produit sur le téléphone, sur l'iPhone. Donc il y avait pas ce côté. On a peut-être un peu mal fait de nos designs. On s'excuse. On va faire ci, on va faire ça. C'est pareil chez les autres. Et regardez, c'était vraiment le. Je pointe les autres du doigt. J'essaie de diffuser un peu, d'étaler un peu le truc. Il n'y a pas que moi qui suis concerné. Et ça, ils le font peut-être moins maintenant. Jobs, tu sentais que c'était oui. Vraiment bon putain, je vais me les faire tous quoi. Et Cook, il est peut-être pas dans cet état d'esprit. L'autre était plus sanguin quoi. C'était vraiment.
On peut en parler de l'antenne Gate, mais ouais. Moi, j'avais pas suivi l'histoire, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils ont communiqué n'importe comment à l'époque.
Bah, c'était le truc. Alors déjà, donc il se fait griller son design. Le téléphone sort, tout le monde le trouve superbe et à juste titre. Ça, c'était vraiment un redesign par rapport au précédent. Très beau téléphone. Et puis les premiers tests avant la vente commencent à sortir, et il y a Walt Mossberg qui est un peu la boussole un peu de Steve Jobs sur la qualité d'un produit. Walt Mossberg, Wall Street Journal, qui dit ah mais il y a des moments où les barres cellulaires disparaissent, où on n'arrive pas à se connecter. Parfois il y a plus de barres, mais la communication marche quand même. Bref, il y avait quand même un problème de toute façon. D'autres tests arrivent derrière qui disent à peu près la même chose. Consumer Report, qui était l'équivalent de 60 millions, qui teste le téléphone, qui déconseille l'achat. Que choisir en France a fait la même chose. Donc Jobs, là, il a dû se dire... Oh, c'était en plein été. Et il y a un mail qu'il avait répondu par mail à comme fait Tim Cook aussi, il avait répondu par mail à un client qui s'en plaignait, ouais. En lui disant mais vous tenez votre téléphone, vous ne le tenez pas comme il faut. Okay. Et c'est une phrase qui est restée, qui est gravée, ouais. Dans le marbre maintenant. Et donc c'était vraiment, c'est pas le téléphone, c'est vous. Et puis la comique, ils ont monté comme ça une petite conférence de presse où il y avait Jobs, Tim Cook, tous les deux sur un tabouret, puis une troisième personne peut-être. Mais communication, voilà, ils ont dû faire venir les... C'était vers le 15 juillet, donc ils faisaient venir les journalistes, ils expliquaient, les autres, chez les autres, c'est pareil, regardez, et il y avait cette excuse, c'était, on a trouvé un bug logiciel, qui fait que les barres sont mal calculées, c'est-à-dire que l'affichage du niveau cellulaire est mal calculé et pas représentatif de la réalité. Okay. Il y avait l'air d'avoir un fond de vérité là-dedans. C'est effectivement, il y avait un bug. Mais tout passait par mais c'est pas le problème du design, c'est juste un bug logiciel, et puis faut le tenir bien. Mais il y avait pas ce côté on a voulu faire un design sympa, on a voulu mettre les antennes à l'extérieur, mais on s'est peut-être un peu trompé. Okay. Et après, ils ont gardé ce design pour le 4S, avec des petites modifications qui montraient que, effectivement, ils avaient quand même un peu corrigé. C'était très léger, hein, les modifs, c'était presque imperceptible, mais ils avaient étudié le truc et ils avaient fait une petite correction. Mais oui, c'était le machin qui leur est tombé dessus sans prévenir, et ils ont improvisé une sorte de réponse et sur la fin, on n'était pas vraiment habitué à cet Apple qui pointe du doigt tout le monde en disant c'est pareil chez les autres. Arrêtez de nous chercher des noises, les autres c'est pareil.
T'as eu un peu ça avec le Bandgate aussi, c'était sur l'iPhone 6 je crois, où en gros ils ont dit non, il n'y a pas de souci. Et sur le 6S par contre, ils ont renforcé le châssis, et là ils ne l'ont pas admis officiellement, mais tu vois bien qu'il y avait un problème.
Oui, c'est qu'après le 6S, il disait je ne sais plus comment c'était tourné, mais c'était un peu on a renforcé le truc. Mais sans dire parce que le précédent, il y avait ceci ou cela.
Mais pour en revenir à l'antenne Gate, ça avait été un véritable feuilleton tout l'été. Ouais. C'est plutôt début juillet, c'est plutôt une période un petit peu calme dans l'actualité high-tech. On sort de la WDC et on attend un peu le mois d'août où les choses.
Et puis les ventes se font toutes seules, quoi. Le produit a été lancé, les ventes se font, c'est un tout nouveau téléphone. Voilà, donc tranquille.
Et, Et chaque jour, il y avait un nouvel épisode et ça passionnait les médias, mais même les médias généralistes. Mais je pense que c'était un peu lié au fait que ce soit le mois de juillet. Forcément, c'est une période un peu plus calme. Mais ceci dit, dans cette affaire, Apple a quand même eu un coup de génie. Alors, je me souviens plus exactement des conditions, mais c'était un plan qui avait coûté, je pense, plusieurs centaines de millions de dollars. Et donc, pour mettre les choses au clair, Apple avait donné à chaque client de l'iPhone 4 un code coupon qui permettait d'acheter le bumper lequel permettait de régler, entre guillemets, les problèmes de réception d'iPhone. Mais c'est là où ça a été finalement très futé, parce que quelque part, Apple a éduqué ses clients à acheter avec son iPhone une coque.
Oui, il n'y avait pas de coque avant sur les iPhones.
Voilà. Et c'est un peu le début d'un business. Alors, peut-être que ça a beaucoup coûté à Apple à l'instant T, mais voilà, le business des coques doit rapporter chaque année des centaines de millions, voire des milliards de dollars à Apple, avec une marge qui est juste incroyable.
Mais je crois que j'avais revu un article, c'était 150 millions, quelque chose. C'est pas rien pour Apple, un dollar est un dollar, mais bon, voilà, c'était pas, la boîte n'a pas coulé.
Oui, mais on était encore en 2010, hein, c'était pas plus, on en était encore...
Mais le truc qui a dû les énerver, enfin, c'est pas que ça les énervait, mais on était à la quatrième génération d'iPhone, et je crois, peut-être que je me trompe, j'ai oublié peut-être quelque chose, mais l'iPhone, il n'avait eu aucun véritable problème depuis son lancement. Il y avait peut-être des lacunes de ceci, de cela, mais il n'y avait pas eu un accident industriel. Et c'était un produit qui enthousiasmait, et puis les autres essayaient de le rattraper. Enfin, il était bien, très bien lancé, et là, pan, il y a un coup de frein avec toute une polémique. Et c'était le premier accident, disons, le premier accident de l'iPhone.
Il y en a eu d'autres, puis il y a eu des couacs qui ont été tellement gros que là, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'excuser. Moi, je pensais par exemple au Battery Gate, Christophe.
Oui, alors rappelons pour la faire courte qu'Apple bridait les performances de ses iPhones lorsque les batteries étaient vieillissantes.
Pour éviter que ça plante, c'est bien un problème. Que ça arrête d'un coup.
Voilà. Sans le dire à personne. Donc là, tout de suite, dès que quelqu'un a découvert le truc, on a parlé d'obsolescence programmée, enfin voilà, le bûcher était installé, c'était la catastrophe, ce genre de choses. Mais justement, en termes de gestion de crise, ça a peut-être été l'une des plus grandes réussites d'Apple. Moi, je me souviens d'un coup de fil d'un copain. Donc, on est quelques jours avant Noël. Il est à la Part-Dieu et il me dit « Purée, c'est fou, hein, il y a un monde de dingue devant l'Apple Store. » Puis je fais « Ah ouais, pourquoi ?» Et puis après, il se moque un petit peu. Bah oui, en fait, les personnes qui faisaient la queue, elles n'étaient pas là pour acheter le nouvel iPhone, mais pour participer au programme d'échange de batterie qui devait se finir, je crois, au 31 décembre ou un truc comme ça. Alors... Sur le coup, ça a vraiment été une perte sèche pour Apple et à plus d'un titre. Hein. Justement, ils avaient baissé le coût de remplacement de batterie, donc ils devaient absolument rien gagner ou presque sur ça. Comme l'expliquait mon copain, les Apple Store s'étaient transformés en sorte de Genius Bar géant, alors qu'on est dans une période où il vaut mieux plutôt mettre les nouveaux produits en avant et les vendre. À cette période-là, ils ont davantage changé de batterie que vendu des téléphones. Alors voilà, donc là, ça a été vraiment à l'instant T, je pense que pour Apple, ça a vraiment été une période délicate. Mais Apple a réagi grâce à ce programme, et on s'est aperçu que 12 ou 18 mois plus tard, Apple a profité grandement de cette expérience. On s'est rendu compte, ah tiens, mais les ventes d'iPhone là sur ce trimestre, elles sont vraiment, vraiment fortes. Et en fait, elles ont été portées par une clientèle, j'ai envie de dire, plus fidèle que jamais, qui avait peut-être changé à moindre coût un an auparavant la batterie de leur iPhone, et qui se sont dit, j'achète un nouveau smartphone, je reste fidèle à Apple parce que ils prennent compte, ils prennent soin de moi.
Mais c'est le genre de polémique après qui reste. Après, ça finit un peu par disparaître, mais c'est le genre de truc qui reste après, qui est déformé, amplifié, où les gens qui sont un peu à l'extérieur vont dire Apple, c'est l'obsolescence programmée, la preuve avec les batteries. Leur propos ira pas plus loin parce qu'ils n'ont pas regardé en détail, mais ça reste un peu comme ça dans les esprits pendant un bon moment quand même. Ouais.
T'as raison, dans un sens, et c'est vrai que lorsqu'on parle, enfin, quand on parle de situation de crise, on parle toujours de l'instant T, en fait. Mmh. Et dans ton exemple, par exemple, qui était très intéressant sur l'Antenna Gate, tu parlais des concurrents qui se sont moqués de l'iPhone. Je crois que tu citais Nokia et... deux acteurs qui...
qui sont toujours là, mais bon...
Oui, voilà. On ne sait pas trop s'ils sont vraiment là, si c'est vraiment... Mais oui, enfin, voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était malgré tout, enfin ça et l'Antenna Gate, c'est, au final ça malgré tout était des expériences à la fin qui ont été plutôt positives pour l'iPhone, parce que l'Antenna Gate, il faut aussi, enfin pour finir là-dessus, ça fait un énorme pataquès, mais je crois pas que ça ait eu un véritable impact sur les ventes d'iPhone, c'est un modèle qui s'est très bien vendu. Donc voilà. Après, il y a différents types de situations de crise, il y en a une que moi j'ai... Je voudrais bien avoir l'avis de Florian là-dessus. C'est la crise autour de Plan. Je ne l'ai jamais compris. Alors, Plan, on est d'accord, c'était il était complètement à la ramasse lors de sa sortie. Mmh. Je me souviens des images satellites qui étaient un petit peu déformées. Les recherches qui ne marchaient pas très bien. Bon, mais quelque part, enfin, tout le monde était conscient, enfin, tout le monde qui s'intéressait un petit peu à ce domaine, que voilà, Apple s'était lancé quand même. C'était un chantier titanesque. Elle arrivait avec une version 1.0 et puis on arrivait à un moment où, enfin, personne n'avait réussi à ce jour-là à faire quelque chose qui soit, mais
je sais
pas aussi bien que Google Maps, mais qui s'y approche même de loin.
Je sais plus. Après, je me rappelle des vues satellites où il y avait effectivement des ponts qui étaient complètement aplatis. Enfin, c'était des zones de guerre, les ponts ou autres.
C'est ça.
Ça ressemblait à rien. On disait, mais vraiment une zone de guerre. Et je sais plus où en était Google sur vraiment juste cette représentation satellite. Parce que sur le reste, ils étaient très avancés, évidemment. Mais il y avait aussi des villes, des adresses qui n'étaient pas du tout au bon endroit. Et j'ai revu un truc où des gens avaient été emmenés dans un coin, mais super dangereux, parce que les adresses étaient complètement foireuses. Et là encore, il y avait une personne chez Apple qui me disait, mais l'un des problèmes de Plan, c'est que, enfin de cette première version, c'est qu'il n'y avait pas de système en place pour corriger rapidement les erreurs. Alors je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais en gros, quand il y avait des erreurs de fait, la correction était très longue, donc le truc il restait, et puis c'était compliqué. Donc ça a été, mais c'est un peu le problème de avec Apple, c'est que même si tu te dis c'est un produit 1.0, donc forcément il va y avoir des lacunes, des choses qui manquent, et puis de la qualité, il y a peut-être des choses qui seront pas au niveau des autres qui se sont lancées 3 ou 4 ans avant, tu te dis c'est Apple. Donc, même si c'est pas, il y a pas tout, ce que l'on a normalement, c'est de la qualité, c'est top. Leur souci du détail, copyright Apple. Là, ça n'était pas quoi. Il y a des trucs, c'est rien que les représentations. Tu disais, mais c'est pas possible d'avoir une tour qui a cette tête-là, ce truc qui est complètement écrasé, qui est complètement affaissé. Et c'était pas, ça pouvait se comprendre qu'ils soient pas à un haut niveau, mais ce qu'ils avaient jugé utile de mettre en ligne, c'était pas joli joli quoi. Et ça a débouché où le responsable de Plan, pas le responsable de Plan, mais Scott Forstall qui s'occupait du logiciel, qui était quand même une pointure chez Apple. Hein, il était venu dans les bagages de Jobs. C'était vraiment juste une sorte de numéro 2 putatif d'Apple. Il s'est fait virer parce qu'apparemment il aurait pas voulu signer la lettre d'excuse disant oui, on s'est un peu emballé, on va travailler, on va améliorer. C'est Tim Cook qui l'a signé à sa place.
Mais dans cette crise, c'est justement ça qui m'étonne un petit peu, c'est que j'arrive toujours, je me demande à quel point j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de politique derrière
ça. Oui, ça peut être le moyen de virer quelqu'un que tu avais envie de virer, voilà, mais tu sais pas comment, et là, tiens.
C'est ce truc-là, dans cette crise-là, qui est très particulière. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, tiens, on va sauter sur... il veut pas signer la lettre, tiens, on va sauter sur ça pour le virer.
Oui, parce qu'il avait l'air pas s'entendre avec Johnny Ive, parce que tous les deux avaient pas du tout la même vision du logiciel, parce que c'était Forstall, c'était occupé d'iOS et avec ses interfaces très réalistes. Johnny Ive, apparemment, c'était pas trop son kiff. On a vu de toute façon, quand Johnny Ive a repris le logiciel, les interfaces, on a vu ce qu'il en a fait, avec les interfaces très plates, très épurées. Donc apparemment, il y avait un content entre ces deux gros barons au sein d'Apple, et Forstall avait ses soutiens, Johnny Ive en avait peut-être plus, et puis... Mais après, c'est ça qui est aussi compliqué, c'est dans toutes ces histoires même de Siri, c'est peut-être pareil. C'est pas que des histoires de technologie, c'est pas que des histoires de développement, c'est aussi des histoires humaines, d'ego. Et parfois, ça peut des fois se résumer à ça. C'est qu'il y a un responsable d'une division qui veut pas admettre que ça va pas, parce que sa crédibilité en souffre, donc il va pas forcément trop insister sur ce qui marche pas. Et parfois, il y a le facteur humain dont j'ai l'impression, des fois, on le prend pas assez en compte, mais qui a peut-être, c'est une grosse responsabilité dedans. C'est que les gens restent des êtres humains avec leurs faiblesses, leur ego, leur orgueil, leur ambition, et ça peut parfois expliquer des accidents techniques.
Et tout ça pour ajouter que les crises ont quand même malgré tout parfois du bon, hein, parce que quand il y a une crise et quand il y a un problème comme Siri, on est vraiment dans le domaine de l'immédiateté. Et plan a mal commencé. Bon, maintenant, c'est devenu un très bon service.
Voilà, c'est
pas aussi bon que Google Maps, mais il est parfaitement utilisable.
Voilà, je sais plus comment avait tourné sa Cook, mais c'était en gros, on a raté, on va se retrousser les manches et on va améliorer. Et puis, effectivement, ça s'améliore pas en 6 mois parce que c'est un énorme chantier. Et puis, il a peut-être fallu tout réécrire. C'est comme la première version de WatchOS, elle a certainement été réécrite 2.0 pour passer à la 2. C'était lent, etc. Là, c'est pareil. Mais effectivement, à plan, aujourd'hui, on peut s'en servir au même titre que Google Maps. On peut choisir entre les deux, quoi.
Et dans la même chose, tu parlais effectivement des débuts compliqués de MobileMe. Bon, avec Cloud, quelques années plus tard, ça marche pas si mal.
Oui.
Mais, et c'est là le problème par rapport au sujet de ce podcast. Le problème de Siri, c'est que non. Ça fait maintenant, enfin, comme tu disais, c'est un peu le canard boiteux d'Apple, et ça fait 15 ans que ça dure.
Alors, la chance, entre guillemets, qu'ils ont dans la situation actuelle, c'est que ils n'ont pas sorti le Siri tel qu'ils veulent le faire, là, ces fonctions, ils les ont pas mises dans les téléphones de tout le monde, et puis ça marcherait pas, ça effacerait des données, ça sortirait des informations erronées. C'est un truc qui a été présenté, mais qui est pas disponible. Plan, il était disponible. L'iPhone, qui captait moins bien, il était disponible. Donc là, ça impactait directement l'utilisation des gens. Là, ça reste un truc distant. C'est dommage de ne pas l'avoir, mais voilà, ça n'empêche pas de se servir de son iPhone et de faire 3 milliards de choses avec, et toutes les choses pour lesquelles on l'a acheté. Pour l'instant, on n'est pas affecté, disons.
Après, il y a des erreurs qui sont du mal à assumer. Je pensais par exemple au clavier papillon là, des MacBook qui a traîné pendant 5 ans.
Oui, un clavier papillon, ouais, c'était pas mal ça aussi. Ouais.
Et ça, quand tu parlais de facteur humain, j'ai un peu l'impression que c'était la décision de Hive de faire ce truc-là.
Disons que ça fait partie des flèches qui l'ont été envoyées dans le dos pendant longtemps. Ouais. C'est que là, pour résumer rapidement, en 2015, ils sortent un MacBook avec super fin, avec un nouveau type de clavier, on dit papillon, parce que le mécanisme dessous, qui est sous les touches, qui permet qu'elle monte et qu'elle descende, avait des formes, pour résumer, d'ailes de papillon. Ça avait deux avantages, c'est que ça permettait à la touche d'être plus stable, c'est-à-dire que on s'en rend peut-être pas compte, mais apparemment, quand on appuie sur des touches, elles descendent pas comme ça verticalement de manière homogène, mais elles descendent un petit peu, un peu à gauche, un peu à droite, puis elles descendent. Ouais. Le clavier papillon, la touche était super fine et elle descendait très droite comme ça, donc confort, etc. La course était beaucoup plus courte, donc il y a des gens qui aiment pas ça, mais ça permet de frapper très rapidement, on a moins besoin d'appuyer longtemps. Donc ils sortent ça, et le problème, c'est que ce qui s'est vite révélé, c'est que il y avait tellement peu d'espace entre la partie inférieure de la touche et la partie en dessous du portable, que la moindre poussière, un débris, une miette ou des choses comme ça qui se mettaient dessous, et la touche répondait plus. Et il a fallu attendre 3 ans pour qu'ils mettent en place un programme de SAV, de problèmes de qualité, où il disait, alors, si vous avez des lettres ou des caractères qui se répètent, c'est-à-dire vous appuyez une fois, puis il y a 3 A qui apparaissent, c'est un problème. S'il y a des lettres qui n'apparaissent pas, on appuie, il se passe rien, problème aussi. Il y avait un troisième cas, une touche qui a l'air d'être bloquée, c'est-à-dire que, ou elle ne réagit pas comme ça. Voilà, tout ça, c'est des problèmes qui peuvent permettre de vous être éligible à un remplacement de votre clavier. Mmh. Ça a mis 3 ans avant qu'ils mettent ça en place. Et la situation est devenue complètement ubuesque au moment où ils mettent en place ce programme qui liste tous les portables qui sont sortis depuis 3 ans, sans exception. Et chaque fois, à partir de là, chaque fois qu'un nouveau portable sortait, pouf, il rejoignait directement la liste. Mais officiellement, c'était pas les Genius Bar dans leur coin qui disaient, alors celui-là, on peut aussi le prendre, mais il ne faut pas le dire. Non, la liste était mise à jour en même temps qu'on avait le communiqué de presse du nouveau MacBook Pro. Donc c'était en gros, on disait aux clients, alors vous avez acheté un nouvel ordinateur, il y a des chances, mais vraiment, il y a vraiment des chances, au point qu'il est dans le programme SAV, qu'il y a un problème avec son clavier. Mais ne vous embêtez pas, c'est prévu, on sait... mais voilà, on sait que vous avez quand même toutes les chances d'avoir le problème. C'est pas un problème caché, voilà. Donc c'était complètement surréaliste. Et ils ont après fait des petits changements, où ils ont rajouté une petite membrane, un petit film, pour éviter justement que les débris aillent sous la touche. Et là, c'était marrant, parce que ils l'ont présenté en disant ouais, ça va réduire sa petite membrane, ce film plastique, ça va de caoutchouc très 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 fin, ça va réduire le bruit des touches. Ce qui était vrai, les premières touches claquaient un peu, ça faisait clac 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 clac. Mais c'était présenté uniquement comme ça. C'est juste pour que ça soit plus silencieux. Ça, c'était le discours officiel. Et on avait eu à l'époque une fiche technique qui était donnée dans les Genius Bar pour les techniciens, qui parlait de cette nouvelle membrane. À aucun moment, il parlait de bruit. Il disait juste, c'est quelque chose qui permet d'éviter que les débris viennent s'accumuler au mauvais endroit. Donc, il y avait le discours officiel, le discours officieux. Ils ont reconnu qu'il y avait un problème à travers ce programme de SAV, à travers les changements qu'ils ont apportés légèrement au clavier. Schiller, même Phil Schiller, lui, il était pas mal quand même des fois pour justifier les trucs, où c'était, ils ont changé, à un moment, ils ont dit, au bout de 4-5 ans, ils lancent un nouveau MacBook Pro, un 16 pouces, avec un nouveau clavier. Donc, ils abandonnent leur mécanisme papillon, ils reviennent au mécanisme standard ciseau, qui marche depuis la nuit des temps et tout va très bien. Ils le remettent et Schiller, même à ce moment-là, disait « Non, mais on continue à travailler sur le papillon. » Donc il y avait ce nouveau MacBook Pro avec ses claviers ciseaux. En parallèle, il y avait les autres qui étaient toujours là avec leur papillon. « Non, on continue à travailler avec le papillon, on essaie de l'améliorer, patati patata. » Et puis au final, tous les portables sont passés avec le clavier assez basique, un peu plus épais, mais qui fonctionne. Parce qu'un clavier, quand même, c'était quelque chose qui fonctionne des décennies. Et ça ne devrait pas être un problème, quoi. On peut améliorer des choses, mais un clavier, c'est un clavier, quoi. D'accord. Évidemment, la technologie, soit on l'enlève complètement, mais ça reste un clavier. Donc ouais, ça a été vraiment... ils ont eu du mal à assumer le truc. Et ça peut se comprendre. Alors là, on se place de leur côté, parce que à partir du moment où vous dites, soit vous êtes honnête, vous dites, oui, on s'est planté, on a un problème, ça peut ne pas marcher, ça peut poser problème sur ces MacBook Pro que vous avez acheté $3000. Et ben après, c'est des actions en justice. Et il y en avait même eu qui se sont déclenchées à ce moment-là. Donc il y a ce côté, il y a à la fois, il faut être honnête, et parce qu'il y a des clients, et il y a un service client, ça s'appelle Apple, on essaie de faire des bons produits, on essaie d'avoir un bon service. Mais si on en dit trop, on ouvre la porte à toutes les actions en justice possibles et imaginables. Donc, de leur côté, ils essaient un pied d'un côté, un pied de l'autre, et c'est assez compliqué. Ouais. Et la dernière chose, c'est qu'on se dit, ils n'ont qu'à changer les touches au bout de 2 ans, et ils changent les touches. Mais c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que c'est pas juste, on met deux autres touches, il faut revoir toute la conception, même si c'est que le clavier, il faut revoir toute la conception du portable. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut voir l'épaisseur, refaire les fixations, refaire le fonctionnement, avec l'écran qui se referme dessus, enfin, le châssis, il faut refaire de zéro, ce qui veut dire refaire les chaînes adapter les chaînes de fabrication, adapter les processus de fabrication, le SAV, et il faut surtout trouver une solution pérenne, c'est-à-dire qu'il faut trouver une autre solution qui va marcher, si c'est pour qu'au bout de 6 mois, on retombe dans un autre type de problème. Donc, ça ne peut pas se régler en 6 mois, mais là, ça a quand même mis très très longtemps à se corriger.
Christophe, le Mac Pro, ça a été un couac du même style, non ? Enfin, sauf qu'ici, là, ils ont publiquement admis qu'ils s'étaient trompés de voie. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'Apple assume s'être planté avec la manière dont elle pense ses produits.
Non, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a un truc qui est intéressant avec le Mac Pro, enfin, et en tout cas avec certains couacs d'Apple, c'est quand Apple rate un produit, c'est parce qu'elle a misé sur la mauvaise technologie. Ouais. On parlait de Mobile Me tout à l'heure. Alors, l'une des erreurs d'Apple à l'époque, c'était d'avoir beaucoup misé sur Sprout Core, donc c'était une extension JavaScript qui permettait les fameux effets d'interface de MobileMe, et en fait, cette technologie, elle était tout simplement trop jeune. Alors, dans le cas du Mac Pro, c'est un peu pareil. Apple a voulu changer le concept de sa machine. Donc, le concept d'un Mac Pro, c'est qu'on a une grosse boîte et on met tout dedans. Et donc, quand la sortie, oui, on n'a pas précisé, on parle du Mac Pro, entre guillemets, poubelle de 2013. Hein. Donc là, c'était de dire, bon, bah, c'est fini, on joue plus avec l'intérieur de la machine. Vous allez voir, on a une nouvelle, on a une technologie qui est super, c'est Thunderbolt. Vous allez mettre tous vos appareils externes, tous vos appareils, vous allez les mettre en externe et ça va marcher aussi bien. Alors voilà, donc déjà premièrement, bah, ça allait à l'encontre du désir de cette clientèle qui était attachée à cette idée d'avoir une grosse tour. Et donc, quand elle est partie dans cette direction, bah, la conséquence de tout ça, c'est qu'elle a voulu, évidemment, faire du Mac Pro un bel objet et un design compact. Résultat, on a eu des problèmes de dissipation de chaleur et il y avait souvent des composants qui... Alors, soit l'utilisateur avait de nombreux freezes, soit il y avait même des composants qui avaient tendance à vieillir, on va dire, précipitamment. Ouais. Alors, bon, ça a été une mini-crisette, hein, parce que... faut quand même dire les choses. Hein. Le Mac Pro, c'est pas les volumes de l'iPhone 4. On touche très très peu de personnes. Ceci dit, c'était mal vécu par une partie historique de sa clientèle, qui est l'acheteur de Mac. Et même s'il est même pas, même si lui n'est pas client du Mac Pro, parce que on avait quand même l'impression. Qu'Apple délaissait clairement les Mac pour l'iPhone et pour l'iPad.
Ouais, c'est la belle bagnole dans la gamme, c'est-à-dire que même si les gens achètent les berlines de milieu de gamme, ils se disent, tiens, je suis chez un constructeur qui a au-dessus, qui a la grosse berline, le gros SUV, il classe, tout ça, je pourrais jamais me le payer, mais ça donne un peu envie, quoi. On se dit, tiens, voilà, on fantasme un peu sur le truc. Et là, effectivement, il était... Et il y a un truc, il y a une limitation qu'ils avaient, qui s'était créée eux-mêmes, c'était que de dire, on branche plein de périphériques à l'extérieur, et pour les applications, on va faire en sorte que les applications qui ont besoin de puissance, elles vont utiliser les ressources de la carte graphique avec OpenCL. Et les applications, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des grosses cartes. Enfin, c'est pas qu'on a besoin de grosses cartes graphiques, mais on n'a pas besoin de mettre la grosse carte du truc avec OpenCL. On adapte les applications et on tire le jus de la carte graphique. Et il n'y a pas eu un engouement dingue de mémoire des développeurs qui l'ont utilisé, mais sans plus. Et au bout d'un moment, il faut quand même que les cartes graphiques évoluent, elles deviennent de plus en plus puissantes. Et puis les boîtiers les cartes graphiques prennent de la place physiquement, c'est des gros trucs. Et le Mac Pro, il était plus du tout adapté, quoi. On pouvait plus mettre ces cartes graphiques là, c'était pas fait, il était pas efficace pour dissiper de la chaleur comme ça. Et il y avait une erreur de positionnement, de concept, c'est-à-dire on met plein de périphériques autour et d'idées sur la manière dont les gens allaient utiliser les applications, les développeurs allaient utiliser les applications. Ben, au bout d'un moment, les développeurs ils avaient besoin de grosses cartes graphiques et le Mac Pro pouvait pas les recevoir.
Voilà. Et puis en 2017, donc Phil Schiller, je crois qu'il y avait Craig Federighi à l'époque aussi. Alors ils sont un petit peu discutés avec
Ternus, là, le
ouais, nom, voilà, ouais. Et donc ils ont discuté, et puis ils ont dit des choses assez claires. Voilà, bon, le Mac Pro, bah, c'était une mauvaise idée. On travaille sur un nouveau Mac Pro classique. Et quelque part, ils ont dit non, le Mac n'est pas mort. Et puis on tient notre clientèle créative, à notre clientèle historique et ce genre de choses. Et
ils ont fait l'iMac Pro pour
voilà, occuper. Exactement. Qui, je sais pas si c'était leur meilleure idée, mais bon.
Mais disons que ça bouchait le trou, quoi. En attendant, puis ça faisait parler un petit peu, mais c'était voilà, on sort l'iMac Pro avec des Xeon à l'intérieur. Regardez ce. Voilà, c'était en attendant le vrai nouveau Mac Pro.
Et puis c'était l'époque où l'iPad ne cessait de monter en puissance. L'iPad avait ses processeurs ARM qui faisaient que l'iPad avait une super autonomie et que le Mac non seulement n'avait pas cette autonomie, mais quand on faisait des tests de bench, il était complètement à la ramasse à côté. Et malgré tout, j'ai quand même l'impression que ce jour-là, quand ils ont un petit peu tapé sur du poing sur la table, j'ai l'impression qu'ils ont quelque part choisi entre le Mac et l'iPad. Et comme tu disais, on a eu l'iMac Pro, on a eu beaucoup de Mac de bureau qui sont sortis. C'est d'ailleurs un truc assez étonnant. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça se fait qu'en 2025, on se retrouve avec un Mac Studio, un Mac Mini et un Mac Pro. alors que bah, ça doit faire 10% des ventes totales de Mac. Et en plus, souvent dans ces matériels-là, tu as deux gammes dans une, parce que tu as les Mac Mini de base, tu as les Mac Mini après avec des puces Pro, avec le Mac Studio, c'est la même chose. Enfin, c'est assez étonnant. Bref, Apple a rectifié le tir, mais ceci dit, avec le recul, je suis pas certain qu'aujourd'hui, ils vendent beaucoup plus de Mac Pro qu'il y a 10 ou 15 ans. Mais ils ont réussi quand même leur coup, à savoir rassurer leur clientèle historique.
On va pas faire la liste de tous les flops d'Apple, mais il y en a un qui était assez intéressant, c'était Snow Leopard. Christophe, cette version, c'était un moyen d'admettre que Leopard était sorti un peu vite du four. Il me semble que le système est arrivé en retard, du coup, comme tu le disais, vu qu'une bonne partie d'Apple bossait sur ce qui allait devenir iOS.
Non, mais ça, moi, j'ai pas de souvenir que Leopard était une sortie plus... comment dire Enfin, je veux dire, quand je pense à des lancements de macOS qui ont été foireux, c'est pas Leopard auquel je pense en premier. Mais par contre, je pense que c'est l'un des plus beaux coups marketing de l'histoire d'Apple. Le brief en interne, ça a été « Bon, écoutez, les gars, on n'a absolument pas le temps de s'occuper du prochain macOS. Là, on est à fond sur l'iPhone. On mise tout sur ça. C'est vraiment notre avenir pour les 5 ou 10 ans. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va leur dire bah, « On se concentre sur les bugs. » Et puis on fait deux, trois choses comme ça, et puis emballer, c'est pesé. En plus, je pense que là où Apple a été malin avec Snow Leopard, et si cette version a été populaire, c'est aussi parce qu'elle ne coûtait que 29 euros, soit 100 euros de moins que Leopard. Alors après, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais en plus, Leopard, c'était quand même, sur certains points, c'est une version assez iconique, parce que ça reste la version qui a introduit Time Machine et Spaces, enfin, c'est deux technologies qu'on utilise encore. Mais, voilà, ça a montré quand même, c'est là où, enfin, c'est là, entre guillemets, où Apple est très très fort en marketing, c'est-à-dire, on a rien de vraiment nouveau à montrer. Alors, on va dire qu'on fait ça, comme ça, comme ça. Et voilà, tout le monde garde depuis des souvenirs émus de Snow Leopard. Et à chaque fois que macOS, où il y a un problème de fiabilité logicielle, on ressort toujours cet exemple-là en disant ouais, il faudrait que la prochaine version de macOS ou de iOS soit un Snow Leopard.
Dernièrement, j'ai l'impression qu'on a plutôt eu des problèmes au niveau du marketing qu'au niveau des produits ou des services en eux-mêmes. Ça fait longtemps, par exemple, qu'on n'a pas eu un vrai mauvais produit Apple. Mais c'est plus des controverses sur la com qui est à côté de la plaque. Rien qu'en 2024, par exemple, on a eu 3 pubs qui ont été supprimées. Crush pour l'iPad Pro, l'épisode d'Underdogs en Thaïlande et les pubs, donc du coup, pour le nouveau Siri. Florian, est-ce que tu penses qu'il y a un problème de marketing chez Apple ?
Je serais peut-être présomptueux de dire qu'il y a un problème ou pas un problème, mais c'est plutôt assez étonnant que la première pub crush pour l'iPad, c'était l'iPad, le dernier iPad Pro qui est actuellement en vente, où ils avaient fait une pub avec une énorme presse industrielle qui écrase des instruments de musique, des outils de peintre, enfin, c'est tous les outils et supports créatifs possibles et imaginables, elle les écrase. C'était très esthétique, hein, c'était joli, c'était bien fait, ça explosait de manière très 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 sympa. Et à la fin, quand elle se relevait, la presse, il y avait le nouvel iPad. Alors, pour être très franc, moi, quand j'ai vu la pub, je l'ai trouvé plutôt bien fichue, parce qu'elle était bien fichue sur le sens esthétique. Et puis, ça résumait un peu ce qu'est un iPad, c'est-à-dire qu'avec un iPad, effectivement, on dessine, on fait de la musique, on fait tout ça. Moi, je l'ai pris vraiment comme ça, à ce degré-là. Mais quand on se mettait à la place des gens qui utilisaient tous ces outils, effectivement, le violoniste, il voyait son violon exploser. Le pianiste, il voyait son piano partir en miettes. Je peux comprendre qu'il soit senti un petit peu touché. Apple l'aurait fait différemment, genre quelque chose comme un iPad qui aspire tous ces trucs-là, où on arrive à faire rentrer de manière jolie, poétique, tous ces objets dans un écran. On n'aurait rien dit. Mais là, c'était vraiment le côté destruction qui a choqué. Et finalement, je peux tout à fait comprendre un peu les réactions. Et l'autre pub, où c'était cette équipe de salariés qui est une petite entreprise et qui utilise les produits Apple pour créer son produit. Donc, ils utilisent un peu toutes les fonctions. On les voit partir en Thaïlande pour faire fabriquer je ne sais plus quoi. Et apparemment, donc elle est assez sympathique, elle est drôle, tout ça. Mais vu du côté thaïlandais, il y avait une sorte d'accumulation de clichés par rapport au pays, par rapport aux gens, un petit peu comme si Apple faisait une pub avec ou qui se passe en France. et où il y a des accordéons, il y a des bérets, il y a des les Marseillais qui tapent sur les Parisiens et qui leur rendent bien, enfin tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on peut imaginer autour de la France et condensés dans une pub. Et ce qui est bizarre, c'est que apparemment, ces pubs sont créées, il y a des storyboards, il y a sûrement plusieurs versions, elles sont faites, testées, évaluées, et il n'y a pas quelqu'un, enfin, il y a sûrement quelqu'un qui a dit, c'est peut-être pas, je le sens pas trop, mais quelque part, cette personne n'a pas été écoutée. On peut imaginer quand même que Tim Cook, la direction d'Apple, voit ces pubs avant leur diffusion. Il n'y a pas eu Apple lance pas, c'est pas H&M ou Zara, ils lancent pas 15 produits par semaine. Il y a pas 50 pubs à visionner, à vérifier. C'est une pub, un produit tous les 3 mois. Donc je pense que Cook doit regarder les boîtes, les packaging, les trucs. Enfin, il s'intéresse à tout. Et c'est quand même passé, c'est quand même sorti. C'est curieux qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas eu quelqu'un à un moment qui hop feu rouge. Et non, on va peut-être pas le faire. Et là, pour le coup, pour la pub de... Je me souviens plus pour celle de la Thaïlande, mais pour la pub de la presse qui écrase et tout, y a le responsable marketing qui, lui, s'est fendu de... Alors, il s'est pas fendu d'un communiqué de presse ou d'une lettre, mais là, ils ont envoyé ses excuses au site un site qui est spécialisé dans la création, dans les pubs, la communication, où il a dit, oui, on s'est un peu planté. Donc voilà, lui, il a pris... Voilà, c'est pas Tim Cook qui a fait service après-vente, c'est le gars qui s'occupe de ça, qui a dit, on s'est un peu planté.
Moi, je suis quand même de l'avis qu'il y a un vrai problème marketing chez Apple, et par rapport à ce que disait Florian, on se retrouvait à une époque où Apple sortait, on va dire, effectivement une publicité ou 2-3 spots publicitaires lorsqu'il y avait un nouveau produit qui arrivait, et des fois on a l'impression qu'on est maintenant un nouveau spot publicitaire par jour, ou pas loin, en tout cas pendant, on va dire, la saison haute. Et il y a eu un vrai changement stratégique chez Apple il y a quelques années. Longtemps, Apple travaillait énormément avec des agences. Et je crois que c'est sous la houlette de Phil Schiller, ils ont décidé de créer une véritable division marketing en interne, avec, je crois, plusieurs centaines d'employés qui y travaillent. Et j'ai envie de dire que voilà, il y a une division en interne, et ces gens-là, ils doivent quelque part un petit peu justifier leur salaire, et on se retrouve comme ça devant une fuite en avant où on essaie toujours d'en faire plus. Et ils en font effectivement plus, mais ils font pas toujours mieux. Je pense que c'est un petit peu le souci de la communication d'Apple, et qui fait qu'effectivement, il y a tellement de spots qui sont lancés, il y a forcément des ratés.
Florian, tu le vois comment, le futur d'Apple ? C'est vrai qu'entre le Vision Pro qui semble au point mort, l'Apple Car qui a mené à rien, les couacs liés à Apple Intelligence, tout ça, ouais. Tu penses qu'il faudrait injecter un peu de sang neuf à la tête d'Apple ?
Ça va se faire naturellement. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais il y a quand même pas mal de gens, Cook, Jeff Williams qui était un peu le numéro 2, on se dit le jour où Cook n'est plus là, par la retraite, Jeff Williams va lui succéder, parce que lui, il a vraiment marché dans les pattes de Tim Cook, quoi. Ils ont fait exactement les mêmes choses chez Apple, et puis il supervise des choses importantes comme l'Apple Watch, la santé, le design, etc. Mais il a quasiment le même âge, il y a pas grand chose qui les sépare, donc ça collerait pas. Ouais. Mais voilà, il y a des gens, Eddie Q, il y en a un ou deux autres qui sont là depuis l'époque de Jobs, quoi, qui sont là depuis très longtemps. Et naturellement, l'âge fait qu'ils vont pas rester encore. Tim Cook, il va pas rester encore 10 ans. Il commence à y avoir des passages de témoins. On l'a vu en début d'année à la comptabilité. Le directeur financier qui était là depuis un petit moment aussi, qui a cédé la place à son numéro, son N-1, donc ça reste quelqu'un de l'intérieur. John Ternus, qui s'occupe du matériel, il est là depuis très longtemps, mais c'est un jeune par rapport aux autres. Il paraît qu'on lui prédit le destin de remplacer Cook, mais voilà, c'est quelqu'un aussi qui est là depuis très longtemps, qui a vu tous les produits, lui, pour le coup, il va pas partir. Craig Federighi, il est plutôt encore fringant. Donc il y a un remplacement qui va se faire un peu tout seul. Peut-être que c'est compliqué après, dans ce genre de boîte, de faire venir, on peut se dire, ouais, ça serait bien d'avoir du sang neuf, de faire venir d'autres gens avec d'autres idées, ils n'auront pas la culture et toute l'historique de cette boîte en tête, mais justement, peut-être que c'est pas mal de s'en dégager. Cook, je suis persuadé qu'il a cet héritage de Jobs, il se dit « faut pas que je plante Apple ». C'est une sorte de mission dont il se serait passé, mais c'est un peu une sorte de mission pour lui. Et il y a des gens qui viendraient d'extérieur, bah, ils connaissent Jobs, ils ont le respect pour la marque, mais ils sont pas, il n'y a pas cet attachement, ça, il y a une relation différente à la marque. Mais faire venir des gens d'extérieur, ça s'est déjà passé chez Apple, quand ils ont recruté le John Browett pour diriger les Apple Store, quand celui qu'ils avaient créé est parti. Et ben le gars, il est resté 3-4 mois parce que ça collait pas du tout. Enfin, vraiment une erreur de casting. Donc, ils ont embauché Angela Arendt derrière. Il y a eu aussi un cas, ça a été un vrai feuilleton d'un bonhomme qu'ils avaient, Papermaster, il s'appelait Papermaster, qu'ils avaient débauché d'IBM. Il travaillait sur les PowerPC. Maintenant, on sait que ça devait être pour préparer un peu les futurs processeurs des iPhones. Donc, le mec, ils vont le chercher. Et puis ils n'y arrivent pas parce qu'IBM dit non, vous le débauchez pas comme ça. Donc ça tangue, c'est pas commode. Ils arrivent à le prendre à IBM. Et le bonhomme, c'est pareil, il est parti avec l'antenne à guette, justement. C'est qu'il était là et apparemment il a l'air d'avoir eu sa part de responsabilité et il est parti. Et il y a des personnes comme ça qui sont entrées et ressorties. Donc recruter à l'extérieur, c'est pas évident parce que on se base sur des critères. Les chasseurs de tête vont dire, il est comme ci, il est comme ça, mais ces personnes, on les a pas vues à l'œuvre au sein d'Apple, dans l'environnement dans lequel ils doivent évoluer. Donc il y a toujours une prise de risque. Alors faire venir du sang neuf, oui, mais c'est compliqué quand on est une boîte avec ce poids, avec ce volume de produits, cette importance.
Non mais Félix, on a bien compris que tu veux, à la fin tu veux qu'on dise qu'Apple c'est mort, ça, tant qu'on va le dire. Non mais il y a quelque chose quand même qui est malgré tout très intéressant dans la façon dont tu formules les choses, c'est-à-dire que Apple donne l'impression quand même d'être un carrefour. Donc effectivement, comme tu dis, les différentes tentatives, c'est-à-dire pour l'instant, le Vision Pro est un échec patent, ils ont dépensé 10 milliards de dollars dans l'Apple Car, c'est un projet qui a été abandonné. L'intelligence artificielle, on va dire que c'est au minimum compliqué. Donc non seulement ils sont à la croisée des chemins, mais en plus effectivement ils sont par rapport à ce que disait Florian, à la croisée des chemins au niveau humain, c'est-à-dire qu'effectivement il y a toute une génération, et le phénomène a déjà commencé, c'est un des passe-temps de Gurman d'ailleurs, il y a beaucoup de VP qui sont partis ces 2-3 dernières années, et ça va encore continuer, ce qui fait qu'il va y avoir une partie importante, et c'est assez rare finalement dans une boîte de cette taille, de se dire que j'ai pas les chiffres, c'est pas exact, tout à fait exact, mais peut-être qu'en 4-5 ans il va y avoir 50% des vice-présidentes qui vont partir. Et donc, mais c'est peut-être aussi la chance d'Apple, justement, d'avoir, de prendre un nouveau départ avec, des nouvelles personnes, une nouvelle énergie et ce genre de choses. Finalement, c'est ce qui arrive à Apple, ça arrive à de nombreuses boîtes. Et pour finir par rapport à ce que disait Florence, c'est vrai que Tim Cook porte ce truc de je dois gérer l'héritage de Jobs. Mais à quel point cet héritage n'est pas trop pesant maintenant et qu'à un moment donné, on va dire que toute la génération de Jobs et ne sera plus là d'ici quelques années et que c'est peut-être le temps de faire des choses assez radicalement différentes.
Et on a vu que Jenny Ive, je l'ai oublié, il est parti. C'était quand même une des figures. Un saint au sein d'Apple. Mais finalement, il n'a pas eu de successeur véritablement désigné. Ça a toujours été un peu, on a l'impression que ça s'est un peu réparti entre des personnes. Il y avait une personne ou deux qui avait l'air de diriger, mais bon, voilà. On n'a pas l'impression que ça y a eu que ça se soit effondré au niveau du design. Peut-être, on ne sait pas, on ne saura jamais ce qu'il aurait pu faire s'il était resté là, mais les produits restent plutôt pas mal. Il y a des choses qui, les Mac Mini sont toujours des carrés arrondis, mais plus petits. Il n'y a pas des gros bouleversements, mais il y a des gens finalement qui peuvent partir sans que des gens très importants qui peuvent partir sans que ça précipite la boîte dans le fossé.
Eh bien, merci à vous deux pour cet éclairage sur les différentes façons dont Apple gère ses faux pas. On attend maintenant de voir comment elle va se dépatouiller avec Siri et si le sujet sera remis sur la table lors de la prochaine WWDC. Florian, merci d'être passé, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Christophe, à la prochaine.
Eh bien, merci et à bientôt.
Et nous, on se dit à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.